Thomas Oswald, bonjour, ravi de vous retrouver dans cette année nouvelle de 2022 sur nos ondes de Radio Maria France.
Bonjour et bonne année et merci de me donner une nouvelle fois la parole.
Mais oui, sainte et priante année aussi au nom de notre équipe et de nos auditeurs. Vous voulez, je crois, faire une récapitulation en somme de l'année 2021.
Oui, il me semble que c'est de circonstances. Les auditeurs commencent à bien nous connaître à l'aide à l'Église en détresse. Et tout au long de l'année 2021, il y a eu à travers le monde des points de vigilance tout particuliers sur lesquels j'aimerais revenir dans cette émission. Évidemment, je ne parlerai pas de tous les pays, j'oublierai sûrement des choses importantes, mais je vais appuyer sur quelques points qui nous ont beaucoup marqués lors de cette année passée.
Je vous laisse commencer, Thomas.
Très bien. Alors, je pense que vos auditeurs ont entendu parler des missionnaires de la charité, donc cette congrégation religieuse qui a été fondée par Mère Teresa en Inde, qui a accompli un travail fantastique au service des plus défavorisés en Inde. Et alors, cette association, cette congrégation religieuse, même, on peut être plus précis, rencontre de grands problèmes et elle a passé un Noël très difficile en 2021. Parce que le gouvernement indien lui refuse dorénavant les fonds venant de l'étranger. Cette association qui gère des léproseries, qui gère des hôpitaux, même des écoles, ne peut plus recevoir de fonds de l'étranger. Or, c'était le cœur de son budget. Hein. Si cette association pouvait faire autant de bien, pallier aux défaillances de l'État en Inde pour une grande part, et plus simplement, plus prosaïquement, prendre soin des plus pauvres, c'était parce qu'elle bénéficiait du soutien d'Occidentaux majoritairement, puisque ça pouvait être de personnes partout dans le monde, qui avaient assez d'argent et assez de compassion pour donner et puis pour permettre qu'ils fassent leur travail sur place. Et c'est devenu extrêmement compliqué en raison des freins qui sont mis par le gouvernement indien. Alors ça paraît un peu fou, dit comme ça, mais en fait ça s'inscrit dans la logique de ce gouvernement de Narendra Modi, de son parti BJP, qui veut que l'Inde soit aux hindous, et uniquement aux hindous, premièrement aux hindous, et qui refuse tout ce qui pourrait être considéré comme des subversions venant d'étrangers. Les congrégations religieuses en Inde, les minorités religieuses plus largement, sont soupçonnées d'avoir des intérêts étrangers, et c'est ce qui fait qu'il y a une pression grandissante. Je pense que vos auditeurs ont dû avoir cette information concernant la congrégation des missionnaires de la charité, mais ce n'est pas un cas isolé, loin de là. D'après un article d'Asia News que je viens de lire, il y aurait presque 6000 ONG, donc organisations non gouvernementales en Inde, qui seraient touchées par des restrictions similaires. Et ça, c'est évidemment un très mauvais signal qui est indiqué, qui confirme que ce gouvernement qui est maintenant au pouvoir depuis 7 ans, si je ne vous dis pas de bêtises, c'est quelque chose d'approchant, franchit chaque année un cap supplémentaire dans l'extrémisme et dans le refus des minorités religieuses sur son territoire. Il s'est attaqué tout particulièrement à la minorité musulmane, parce qu'il y a un passif historique très puissant avec la minorité musulmane, parce qu'aussi il y a toujours la concurrence avec le Pakistan voisin et le Bangladesh aussi, mais surtout avec le Pakistan. Mais ils s'en prennent aussi à la minorité chrétienne, qui est une toute petite fraction de la population indienne, qui est à peu près 2%. Donc ils ne devraient pas représenter une grosse force politique. Mais cette minorité indienne, elle a quand même un rôle social très important en Inde, et tout particulièrement en raison de ces ONG qui agissent sur place, qui ont un rôle social absolument incontournable en Inde. C'est grâce à ces ONG que certaines personnes qui sont très mal prises en charge en Inde, comme les intouchables ou les lépreux, peuvent trouver un endroit où se rendre, un endroit où être soignées, être prises en charge, alors que l'État est très défaillant sur ce point. Je pense que le cœur du problème, c'est que justement, cet État indien ne supporte plus de voir ses défaillances et en quelque sorte refuse que d'autres personnes viennent sur place faire le travail que lui ne sait pas. C'est une mentalité qui est extrêmement dangereuse, qu'on voit à l'œuvre dans beaucoup de pays, en particulier en Chine, où porter assistance à son prochain peut être considéré comme un acte délictueux. Et on l'entend quelquefois aussi en Occident, ça. De dire, écoutez, ce n'est pas le travail des ONG de s'occuper des soins, de s'occuper de l'éducation, c'est le travail de l'État. Et donc, à la limite, ne vous en occupez pas, ce n'est pas votre job. C'est une mentalité que je trouve effrayante et que les États utilisent justement pour supprimer ces ONG, ces organismes internationaux qui sont à la fois une ressource pour les plus malheureux, mais qui servent aussi justement de regard international sur ce qui se passe dans les pays. Donc j'attire l'attention de vos auditeurs tout particulièrement sur ce qui se passe en Inde, et on prie, nous, à l'AED, et puis je pense que tous les chrétiens qui sont au courant de ça aussi, pour que cette situation cesse, parce que les missionnaires de la charité, c'est une organisation absolument énorme et qui avait un rôle social de tout premier plan. Alors, j'en finis là avec l'Inde, il y aurait évidemment beaucoup d'autres choses à dire, mais pour rester dans la même région, au Pakistan, les chrétiens continuent à souffrir énormément de leur statut de minorité. Ils ont quelque part la double peine parce qu'ils sont à la fois chrétiens et en plus très souvent ils viennent des castes inférieures, et même pas des castes inférieures, ils viennent souvent des intouchables, donc ceux qui sont vraiment tout en bas de l'échelle sociale au Pakistan et en Inde. Et au Pakistan, on a vu au mois de décembre un patron d'entreprise être lynché parce qu'il était soupçonné de blasphème. Malheureusement, ce n'est pas un cas si isolé que ça. Il y a eu des cas de lynchage comme ça de personnes. Et il y a encore officiellement une cinquantaine de chrétiens qui sont en prison pour cause de blasphème. Officieusement, probablement, malheureusement, encore plus, c'est même possible. Les signaux qui nous préviennent du Pakistan sont assez inquiétants. On avait vu le gouvernement pakistanais en particulier se réjouir de la victoire des talibans en Afghanistan. On sait que pour toutes les minorités religieuses, hindous, sikhs et chrétiennes, au Pakistan, c'est une forme de discours très, très inquiétante, quoi, qui tend à démontrer que le Pakistan veut rester une république islamique extrémiste, malheureusement, et que les minorités religieuses ont de grands soucis à se faire pour l'avenir. Au cours de l'année 2021, il y avait quand même une bonne nouvelle. C'est que le couple de chrétiens qui avait été condamné à mort justement pour blasphème en 2014 a été relâché lors de l'été 2021 grâce à une haute cour pakistanaise qui a eu le courage de reconnaître qu'il n'y avait rien contre eux. Mais ça veut dire que ces deux chrétiens qui étaient assez jeunes, hein, qui avaient 24 ans au moment des faits, sont passés 6 ans derrière les barreaux en pure perte. On reparlera du Pakistan, évidemment. Vous savez que c'est un de nos sujets de préoccupation majeure à l'aide à l'église en détresse. Et on est tout cœur avec les chrétiens qui demeurent sur place, qui sont assez nombreux parce que le pays étant si grand, même s'ils ne représentent qu'un 1,5% de la population, ça fait quand même beaucoup de monde. Et ils sont dans une situation absolument dramatique. Alors, là, je bascule de l'autre côté de l'Inde pour vous parler un tout petit peu de la Birmanie. Là, le contexte est complètement différent, mais là aussi, on a des signaux très inquiétants qui nous préviennent de la Birmanie. C'est pas le même pays. Il y a une majorité bouddhiste, et donc ni hindoue ni musulmane. C'est pas du tout les mêmes questions. Mais par contre, on retrouve la situation d'avant 2010, c'est-à-dire une junte militaire toute puissante et qui fait la guerre à ses propres populations. Tout particulièrement, évidemment, enfin, à ces populations minoritaires. Parmi ces populations minoritaires, les chrétiens sont tout particulièrement touchés. Et on a eu un massacre dans l'état Karenni, qui est cet état à l'extrême est de la Birmanie, à la frontière avec la Thaïlande, où le jour de Noël, 35 personnes ont été tuées dans un village Karenni, très probablement parce qu'ils s'apprêtaient à assister au réveillon de Noël. Donc c'est évidemment symboliquement encore plus triste qu'un massacre ait eu lieu dans ce contexte-là. On a toutes les raisons de penser qu'effectivement c'était des chrétiens qui se préparaient à assister à un réveillon de Noël, ou si ce n'était pas directement des chrétiens, ils étaient dans un village chrétien. Ils ont été probablement brûlés vifs, d'après ce qui est rapporté par les observateurs locaux, et encore probablement par le fait de l'armée régulière birmane, qui se livre à des exactions sans nom depuis le nouveau coup d'État du début de l'année 2021. La Birmanie est évidemment un sujet aussi de préoccupation constant. On était très optimiste hein, à la fin de l'année 2020, parce qu'on voyait le pays s'ouvrir, on voyait que les élections donnaient l'opposition à la junte gagnante. Et au fait, la junte ne l'a pas supporté, a refait un coup d'État et a réussi à remettre le pays sous sa coupe. Dans ce contexte-là, les minorités religieuses, tout particulièrement les chrétiens, sont en très grand danger parce qu'ils sont considérés comme de mauvais Birmans, comme des Birmans qui ont la tête ailleurs qu'en Birmanie, et ça, on ne leur pardonne pas, et c'est ce qui explique que les églises soient brûlées. Alors, j'ai malheureusement perdu le compte, mais à la fin de l'année 2021, le 30 décembre, deux églises ont été incendiées. Il y en avait eu d'autres avant. Donc le fait qu'on incendie des églises, évidemment, c'est tout à fait parlant, c'est pas au hasard. On vit ces bâtiments-là parce qu'on sait qu'ils représentent quelque chose. Alors pour revenir après la Birmanie un peu plus près de chez nous, j'appelle vos auditeurs à garder dans leur esprit les chrétiens arméniens du Haut-Karabakh, donc dans l'Azerbaïdjan, hein, c'est les frontières officielles de l'Azerbaïdjan, mais ils sont dans une terre qui est ethniquement et culturellement arménienne, parce que c'est une terre où il y a des églises qui sont millénaires, et où il n'y avait pratiquement que des Arméniens avant la guerre du Haut-Karabakh de la fin de l'année 2020. Ces gens-là ont été jetés hors de chez eux, et on a régulièrement des images très dures qui proviennent de cette région-là, de soldats de l'armée azerbaïdjanaise, qui détruisent les monuments arméniens et même qui profanent des tombes, ce qui est vraiment le dernier degré de vandalisme et de barbarie qu'on puisse imaginer. Je suis désolé, je suis obligé de passer très vite hein, sur chaque pays parce que comme l'idée c'est de faire un bilan, on est obligé de passer vite sur chaque situation. Mais notre sujet de préoccupation constant aussi à l'aide à l'église en détresse, c'est le Sahel. Et tout particulièrement le Nigeria, parce que le Nigeria est un immense pays qui a la particularité d'être partagé entre chrétiens et musulmans approximativement à part égale. Les musulmans sont très légèrement majoritaires. On a eu un nouvel assassinat de prêtre, là encore, le 24 décembre. Et c'est très probablement signé une fois de plus. Hein. Si ça vient le 24 décembre, s'il y a autant de massacres que les 24 ou 25 décembre, c'est malheureusement souvent un signe négatif qui est donné aux chrétiens pour leur dire vous n'êtes jamais en paix, à aucun moment, à aucun endroit. Donc il s'agit du père Luke Adeleke qui a été abattu alors qu'il venait de célébrer sa messe de Noël. La population nigériane dans son ensemble est la cible de groupes terroristes. On pense à Boko Haram, mais ce n'est pas le seul groupe hein, malheureusement, dans toute la partie nord du pays. Et si on faisait le décompte, alors là, pas seulement 2021, mais depuis 2015, on estime qu'il y a eu 12 000 chrétiens qui ont été tués dans ce pays, ciblés en raison de leur appartenance à la fois religieuse et ethnique. Et une fois de plus, pour le Sahel, on ne peut pas simplifier la situation, on ne peut pas dire que c'est une guerre religieuse, c'est pas les musulmans contre les chrétiens, c'est pas aussi simple que ça. Il y a beaucoup de questions ethniques qui s'ajoutent là-dessus. Mais on ne peut pas non plus évacuer le facteur religieux, parce que les groupes djihadistes qu'on voit maintenant et qui sévissent dans cette région-là ont des revendications djihadistes qui sont très claires. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Et surtout, on voit des régions où les chrétiens et les musulmans vivaient en bonne entente qui sont attaqués en priorité. Et l'objectif donné par les djihadistes est justement de semer le chaos dans ces régions-là. Donc on ne peut pas évacuer la question religieuse. Ce n'est pas simplement un conflit ethnique, ce n'est pas non plus simplement un conflit religieux. Alors ensuite, je rebascule un peu plus à l'est, au nord-est, pour vous parler un tout petit peu du Moyen-Orient, où vous savez que je me suis rendu à la fin de l'année 2021, je suis rendu en Syrie et au Liban. Pour rappeler une nouvelle fois vos auditeurs à la prière, les chrétiens qui vivent en Irak, en Syrie et au Liban demeurent dans une situation extrêmement fragile en raison des problèmes économiques qu'ils rencontrent. Bon, il y a des problèmes de sécurité qui existent toujours, mais c'est plus devenu leur priorité. Dans la majorité des régions de Syrie, c'est plus leur problème prioritaire. Leur problème prioritaire, c'est qu'ils ne peuvent plus vivre sur place dans des conditions normales, parce que l'économie du pays est dans un tel état qu'avec les salaires normaux, c'est-à-dire sans recourir à des trafics ou au marché noir, on n'arrive pas à vivre, on n'arrive pas à avoir plus que juste le pain quotidien. On a des difficultés à mettre ses enfants à l'école, on a des difficultés à faire un plein d'essence pour pouvoir se déplacer. Et donc pour ces raisons-là, les chrétiens continuent à fuir ces pays et à partir pour n'importe quel autre pays. J'avais même entendu des témoignages de chrétiens venant de Syrie qui avaient fui pour aller en Somalie, qui est quand même un pays où, pour le coup, la sécurité est terrible, surtout pour des chrétiens. Il n'y a pas moyen de vivre en bonne sécurité en Somalie, mais au moins, ils avaient des opportunités économiques là-bas. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, en voyant qu'il n'y a plus un conflit ouvert sur l'essentiel de la Syrie continue à perdre ses forces vives, et tout particulièrement ses forces vives chrétiennes, parce que les chrétiens qui vivaient dans cette région-là ont vécu un traumatisme très important. Ils ont le sentiment de ne plus être les bienvenus dans ce pays. Et ils ont aussi le sentiment que l'avenir économique est complètement bouché. Donc c'est ce qui explique que les 7 millions de réfugiés qui ont fui la Syrie sont toujours à l'extérieur de leur pays, qu'on n'assiste pas à de retours importants de Syriens en Syrie, et que continue à avoir des gens qui nous disent que la situation présente est même pire que pendant la guerre. J'ai entendu ça plusieurs fois en Syrie, parce que l'économie empêche de pouvoir bâtir son avenir dans de bonnes conditions dans ce pays. Alors, au Liban, tout proche, c'est presque la même chose. Il n'y a pas eu la guerre, pas récemment en tout cas, comme en Syrie. On n'a pas toutes ces villes entières qui sont ruinées comme on peut l'avoir à Homs, à Alep ou à Damas. Mais on a une économie qui est complètement sous les décombres. Et c'est très frappant de voir des gens qui avaient un niveau social assez élevé, qui avaient des belles maisons, qui avaient souvent deux, trois voitures, qui se sont retrouvés du jour au lendemain complètement ruinés et qui ont à peine de quoi se payer simplement le pain quotidien. Et qui souvent fuient, enfin les jeunes surtout fuient parce qu'ils ne voient plus de moyens d'éduquer leurs enfants. Et ça, pour les chrétiens, c'est la ligne rouge. Ils sont prêts à supporter beaucoup de choses au Moyen-Orient, les chrétiens, pour rester dans leur terre ancestrale. Mais s'ils ne peuvent pas mettre leurs enfants à l'école, dans une école qui fonctionne correctement, là, c'est plus possible. Parce que pour eux, l'éducation est quelque chose de vraiment trop important. Et on peut pas s'en passer. Ça passe au-dessus de tout, et même au-dessus de du désir de rester sur leur terre ancestrale, qu'ils ont tous, hein, évidemment. Voilà. Je vous ai fait
Temps est court.
Un panorama très rapide.
Mais c'est court même pour exprimer tout ça, le temps nous manque.
Oui, évidemment. Il ne faut pas hésiter à continuer à aller sur le site de l'aide Alexandre XIII, puis voir notre magazine pour aller plus en détail sur les sujets. Mais vous voyez qu'il y a des points d'attention un peu partout dans le monde. J'aurais pu vous parler de l'Indonésie aussi, et puis du fameux youtubeur chrétien qui est en prison et qui est à présent entre la vie et la mort, là, Mohamed Kassé, qui était un musulman converti au christianisme et qui a été torturé en prison. Je pourrais vous parler du Venezuela, où là aussi la situation économique est dramatique, mais on fera ça dans le mois suivant sur votre antenne avec plaisir, et on continue à le faire dans le magazine. Ce que je tiens à dire aux auditeurs, c'est que nous, on est un peu focalisé sur la pandémie de Covid et sur les variants, et voilà, et ça peut se comprendre. Mais quand on a des informations comme celles qui nous parviennent sur les chrétiens à travers le monde, je vous assure que notre pandémie est vraiment très peu de choses par rapport à ce que vivent ces chrétiens autour du monde. Et le courage dont nous devons faire preuve pour passer cette période pénible est vraiment très peu de choses par rapport au courage et à l'espérance que ces chrétiens démontrent à travers le monde.
Et ça, vous pouvez le dire de façon très légitime, oui, parce que vous traversez ces pays-là et vous voyez ces plaies profondes et ces grandes détresses, oui.
Voilà. En tout cas, je vous remercie pour le temps que vous m'accordez, et j'appelle vos auditeurs à la prière et puis à se tenir informés, parce que ces chrétiens nous disent toujours qu'ils veulent qu'on parle de leur situation, ils veulent que leur cas soit connu, et ils ont souvent un sentiment d'injustice justement devant le manque de considération dont ils font preuve dans les grands médias occidentaux. Vous voyez, le Moyen-Orient, par exemple, on en a beaucoup parlé pendant la période d'expansion de Daesh, mais à présent, on n'en entend plus du tout parler, alors que malheureusement, il n'y a rien qui est résolu. Hein. L'Irak est dans une situation aussi très grave, on ne sait pas si le pays va survivre. La Syrie connaît la guerre encore sur son territoire, il y a encore des armées étrangères en Syrie. Le Liban est complètement ruiné et on ne voit pas comment il va pouvoir se relever. Donc malheureusement, rien n'est résolu à l'heure où je vous parle. Et malgré ça, on a le sentiment que ces pays ont disparu des fils de l'actualité. Et c'est, à mon avis, c'est pas glorieux pour la profession de journaliste.
Mais en tout cas, votre cri, enfin leur cri, pardon, est répercuté là sur notre antenne de Radio Maria, et c'est dans à des chrétiens, à des fidèles, oui. Et merci beaucoup en tout cas de ce que vous faites pour eux et de ce que vous faites pour le corps de l'Église, Thomas Oswald. Encore une fois, une année sainte et priante dans le nom de Jésus.
Et bonne année à vous et bonne année à tous vos auditeurs. Alors.
Chers auditeurs, c'était notre émission Aide à l'Église en détresse avec Thomas Oswald. Vous pourrez réécouter cette émission podcast sur notre site radiomaria.fr. Dans quelques minutes, ce sera le chapelet de la Divine Miséricorde avec un auditeur.